fait en tout le vers. Il n'y a qu'un mot qui a deux syllabes, tombé. Parce que bouche, si bouche a deux syllabes quand même, mais ça a deux syllabes. Mais la deuxième est quand même remuée. Bon. Et autrement, c'est tous des monosyllabes et dans une sonorité bouche, tombé. Tout est assez, tout ça, fermé. Donc, je ne sais pas du tout une tableau politique. Nous, son, nos, mots, c'est énormément de haut, pas forcément des hauts du terme. Et donc, l'alexandrin, là tu ne l'as pas nommé, mais l'alexandrin, c'est un des grands maîtres du sonnet. Je ne dis pas du tout le seul, parce que le sonnet en décasyllabes, en octosyllabes, de toute façon, le maître du sonnet n'est pas imposé et tu ne fais pas du tout que des alexandrins. Mais là tu en fais un, encore une fois, tu l'as parfait, alors que dans le sonnet inquiet, qui est à la page 30, tu sembles avoir un peu égratigné l'alexandrin. Tu dis, peu importe, court-circuite les énoncés alexandrins. Et là,
effectivement, il y a beaucoup d'alexandrins.
Il y a ceux que j'ai conservés, ceux que j'ai construits et
ceux qui m'ont échappé parce qu'il y a une fatalité de l'alexandrin.
D'accord avec toi. Je trouve que c'est aussi un phénomène très étrange. Oui, au moins, peut-être aussi étrange que celui du sonnet. Enfin, l'alexandrin, en français, a une espèce d'évidence phonique, comme ça. C'est assez facile de faire un alexandrin mauvais,
mais il y a une fatalité. Vraiment, j'écris dans Pavane, qui est le dernier texte chronologique, qui est page 46, le premier vers, c'est « Je bâtis ma terreur à lire entre les signes ». C'est un alexandrin. Évidemment pas du tout fait exprès, alors que d'autres, comme celui que tu as cité, étaient intentionnels. Bon, je lis Pavane peut-être. Donc Pavane, je bâtis ma terreur à lire entre les signes, vers les brisures, les bulletins d'enneigement, où c'est venir au jour qu'offrent les heures, inemployé, effaçant sous les marges le teint, des commentaires proliférant dans les appels de notes et des incises buissonnières, ce sont intrigues, configurations graphiques et autres écumes élocutoires. Les images sont des tigres de papier, des maisons de sable. Ont-elles un toit et la pensée un point certain d'application? Les images sont des tigres blancs perdus parmi les pages. Every wall is a door, every sky a river. Dans la nuit diamantée, les images sont des tigres de disparition. Configuration graphique, c'est une citation de l'imputation à Dominique qui avait été faite à Paul Celan. C'est une critique qui émanait du clan Gaulle.
Non, le langage n'a pas d'enfance, ni la détresse, jaune ou rouge, l'ocre, des collines ne fait pas le tableau, des labours torsadés de Toscane, et ne confondent pas le décompte des jours avec la gravure des lettres. Que conduisons-nous à leur terme, des nous qui marchent devant nous? Non, le langage n'a pas la mémoire qu'on lui prête, quand les paroles ne disent que ce qu'on y entend, quand les nuages qu'évanouit le vent laissent plus de traces qu'un feu de mots dans la nuit de l'histoire ou le tricot des vies.
Tu vois, parce que tu dis là, quand les paroles ne disent que ce qu'on y entend,
Euh, critique de l'étymologisme.
Ah, le langage n'a pas de mémoire, pas la mémoire qu'on lui prête. Oui. De l'étymologisme que tu vises où? Alors,
dans la philosophie.
Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Ce qui suppose que tu vois la philosophie pas mal à travers la lecture.
J'ai eu à voir. C'était une grande maladie, l'étymologie. Donc, à un moment donné, j'ai bossé.
C'est-à-dire, oui, non, mais là, tu as raison. Parce que l'étymologie, c'est la croyance. En fait, c'est la croyance dans la possibilité d'un sens originaire. Et d'un sens originaire qui à la fois appartiendrait au mot, quand même, dans sa verbalité, dans sa réalité phonique en même temps. C'est ça qui est très ambigu dans l'étymologie. C'est le mot même, on remonte le long des sonorités et en même temps on va trouver le sens pur. Enfin, c'est assez facile de parodier des phrases de Heidegger disant il faut entendre résonner plus originairement, etc. Mais, alors, je veux dire, quand justement il n'y a aucune étymologie, et quand la parole ne dit que ce qu'on y entend, tu entends entendre autrement.
On va dire que ce que j'évoque là, c'est l'évaporation de la langue commune, de la communauté dans la langue. Et donc, le déploiement de la société du malentendu.
Mais est-ce qu'il y a malentendu quand la parole ne dit que ce qu'on y entend ?
Parce qu'on n'entend jamais tout ce qu'elle peut détenir à dire.
Mais qui ne serait pas étymologique.
Qui n'est pas nécessairement étymologique. Ouais. Certainement pas.
C'est bien dans ma question. Comment entendre ? Il y a deux ententes. Et là, tu viens de dire que la parole qui ne dit que ce qu'on y entend, c'est la parole que tu dis en évaporation. En même temps, c'est aussi bien la parole du poème, il ne dit rien que ce qu'elle fait entendre.
Et si tant est qu'elle parvienne à faire entendre ce qu'elle imagine au livre.
Oui, mais c'est pour ça qu'elle est là.
Oui,
c'est pour ça qu'elle se cherche et qu'elle
se fait. Bien sûr. Mais la lecture est tardive.
Mais lis donc le poème qui est sur la page de gauche.
Le drame.
Oui.
Le drame. Qu'est-ce que la poésie a l'air de la reproductibilité bibliographique de la pensée à l'époque des images diluviennes de la dissolution des langues dans la neuve unive, dans la nasse généralisée de la parole ventriloque? Laisse travailler l'arrière-plan, affleurer ce qui s'efface de faire surface, scanne, désarticule, babille, bredouille, real ghost, incrusté de biais. Je préfère pas, tu voudrais mieux, il, elle, vous et plus, si hybridité vibrative, voici les clones blancs, les vampires pixelisés, qui a rayé de nos vies la journée du retour.
s'en demandant qu'est-ce que la poésie. Il n'y a pas de réponse.
À l'ère de la reproductibilité vidéographique de la pensée, la question de ce qui reste à la poésie est posée.
Oui, mais tu la poses,
oui.
C'est déjà bien de poser des questions, mon cher Jean-Paul. Oui, mais tu la poses, sans donner de réponse explicite, puisque après, le point d'interrogation qui suit vers la nasse généralisée de la parole ventriloque, on a tiré et laisse travailler
en arrière.
C'est-à-dire, moi je comprends, ne pose pas la question.
Oui, en effet,
ne pose pas la question.
Laisse affleurer ce qui s'efface de faire surface, oui, en effet.
Oui, mais ce qui est là, c'est une réponse aussi.
Ça a la forme d'une réponse.
Parce que c'est de la poésie, parce que ça se présente comme poésie.
Voilà, non, c'est tout. Non, non, c'est tout. Je saurais le nier. Allez, j'en ai un autre.
D'accord.
Je vous dis, autre chose un peu différent de tout. Prime time. Tricoter des linceuls pour foetus au bureau des lettres mortes, rêver d'égaler au moins une fois Gaston Lagaffe dans le génie du dilatoire, compter les points qu'on aurait pu marquer, lister les livres qu'on ne lira jamais mais que l'on a achetés avant qu'il ne soit trop tard, corriger la trajectoire du Titanic, nourrir des ambitions avec des brioches trempées dans un muscat tiède comme on baigne ses yeux dans l'aquarium amniotique, téléporté sans bouger du canapé. Oui, c'était drôle.
Mais non, il n'y a pas besoin de rire très fort.
C'est vrai. Oui, j'essaie de m'étendre un peu. Non.
Moi, j'aurais une question d'un un peu plus technique, c'est est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour lire le poème de la page 56
J'allais lui demander de.
Je peux pas lire sans miroir. Je savais le lire, mais je ne sais plus le lire. Il est inversé.
Oui, il est inversé.
Donc en miroir, on le lit très bien. Ouais. C'est un sonnet sur le masque. Donc c'est un vrai fausse image. Ça commence par un sonnet, un alexandrin, le masque mortuaire, mais le masque de rien. Après, je ne sais plus.
Il y en a un où il y a un seul vers qui est.
Ça, c'est Boustrophé, non ?
Qui est. Non, Boustrophé, non.
J'essaie de trouver un truc. Je dis déçu pour. Finalement, je me rends compte que c'est vraiment sinistre. Car l'art, le croiriez-vous, madame, mademoiselle, monsieur, n'est pas le dit mange de la vie ni la sieste de l'existence réconciliée. Il n'est pas là pour faire joli, il n'est pas là pour faire le beau, ni poison, ni placebo. On ne l'a pas sur ordonnance, on ne l'a pas pour rien non plus, et il y a longtemps qu'il s'inconsole de ne pouvoir offrir aucun remède au monde.
Voilà. Mais je répète alors la fin. C'est pas programmé, hein, pas du tout. Et il y a longtemps qu'il s'inconsole de ne pouvoir offrir aucun remède au monde. Puis je vais faire entendre la cadence. Et donc. Tu fais quelque chose qui est quand même assez remarquable, assez singulier, c'est que tu manies une sorte de dérision renouvelée, ou de questionnement, ou d'inquiétude, ou de inquiet, parce que tu as bien commencé. Et tu poses des questions. Et en même temps, tu réponds, tu corriges la dérision ou l'ironie, tu emportes toujours, je dirais presque tout, dans ce que le sonnet te donne. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit du sonnet. Et d'ailleurs, je suis d'accord aussi sur Alexandra Pellegrini. Et d'ailleurs, on peut dire que Alexandra a un certain privilège, mais c'est vrai que. Enfin, bon, il y a d'autres maîtres qui m'ont. Peu importe. Tu dis que tu as pris le sonnet parce que ça semblait que c'était une forme qui avait justement tous les privilèges dont tu as parlé. Et je dirais que c'est en même temps une forme qui te permet de. Je pense à la formule de Mallarmé, de rémunérer le défaut des langues. Tu parles beaucoup, surtout de défauts. Et de notre langue, de la langue dans l'état où elle est, mais tu ne cesses pas de la rémunérer.
Que faire d'autre?
De rémunérer les défauts. Mais que faire d'autre? Mais non, parce que faire d'autre, rémunérer, la phrase de Mallarmé, rémunérer est un mot qui vient parce que c'est un, je me souviens bien, c'est un endroit où il est question de la, et qu'on parle le langage, la langue, la parole, à l'argent, à la monnaie, il parle de la menue monnaie qu'on se passe en silence. Bon, tout ça évoquant quelque chose comme un trésor, comme une richesse peut-être non monnayable. Et rémunérer veut dire autant que. Je ne sais pas quel mot on pourrait prendre. Presque. Enfin, défaut, qu'est-ce qu'on peut faire un défaut? On peut le réparer, rémunérer ça, c'est réparer. Si ce n'est pas même plus peut-être que réparer, c'est alors, évidemment, on ne veut pas dire sauver, mais quand même. Donc, au fond, c'est ça, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais à la langue?
Ça, c'est pas, je ne peux pas répondre à ça. Ça appartient au cortège herméneutique. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je sais, c'est que, effectivement, de la langue, je m'emploie à faire un travail. Mais ce que je fais, je ne peux pas le dire. C'est ton job.
Non, mais je ne veux pas non plus. Non, je ne veux pas.
Bon, alors, je lis un autre texte. Comme ça, je pourrais tout. J'essaie d'en trouver un où je fais quelque chose à la langue. Un peu plus difficile. Panier. L'entame comme écho sans source. Est-ce un chien ou quelqu'un, un cas ou un monde, frottis, prose, qui collapse? Coagule sous armature grammaticale, confectionner quelque chose, panier ou livre, on ne fait pas l'économie des intervalles. Les cerises étaient mûres sur le chemin de Weimar et Kafka regarde dans la foule qui se pressait devant le mur où la Joconde avait disparu. Panier ou livre, un choix, prose en lamelle, si c'est tout ce qui advient, comment peut-on parler d'un monde? Comment confectionner du monde? Pourquoi plutôt que moi? Livre la forgue, Hamlet, chose, brebis, affonne.
Autre Alexandrin,
plus indécis
aussi parce que la syntaxie compte, donc ça échappe. Livre, la forgue, Hamlet, chose, bredouille, affaune.
Par exemple, je pense que la forgue est dramatiquement sous-estimée dans l'histoire de la poésie.
La forgue.
La forgue.
Ah, la forgue.
La forgue, on en a eu trop. La forgue, oui, je pense que c'est ce qu'il a fait au vers et ce qu'il a fait avec l'ironie. Dans cette époque-là, si brève où il est intervenu, aussi dans la prose, c'est tout à fait exceptionnel et je suis sidéré du peu de cas qu'on en fait. Il y a évidemment des massifs poétiques voisins, mais la force, c'est parfois, comment pourrait-on dire, sans
sont pas quelque chose de trop posé, une sorte de remède à Mallarmé.
Dans ce verre, la forme, tu le fais en quelque sorte, tu le mets dans une quasi-rime interne avec la forme. Hein, la forme, la forme. En même temps, tu le fais précéder par livre. Alors, livre, il faut que c'est l'apostrophe. La poésie est orale, mais la littérature est orale, il faut quand même savoir comment c'est écrit. Quoi. Et justement, non, justement, je dis, je lis, si livre, il a lu livre, la forme, vous ne savez pas s'il y a une apostrophe ou pas, donc vous ne savez pas si c'est le livre ou l'ivresse de la forme. Maintenant, je veux dire, c'est pas. Voilà, si tu veux, voilà, mon job, ça sera de dire, dans ce poème dit, si c'est tout ce qui advient, comment peut-on parler d'un monde? Alors là, c'est d'abord, je peux.
Peut-être que tu peux discuter.
Oui, évidemment. Mais alors, si je fais le philosophe, je dirais pourquoi est-ce que tout s'opposerait à un? Où tout doit être pris ici comme restrictif. C'est tout ce qui advient, ce n'est que ça. Ce qui n'est que ça, c'est la prose en lamelle. Et la prose en lamelle, c'est l'indistinction panier ou livre. Qui ? Ça, alors ça, évidemment, ça peut être entendu puisqu'il ne le dit pas, mais il l'écrit, c'est ça, c'est comme la clava. Et cette fois, c'est Aristote. C'est un peu la même chose. Je vais faire honneur à Aristote. Hein.
Oui,
mais, non, alors, tu veux dire, je suis contre.
C'est même plus de quel texte ça vient.
Écoute, je ne sais pas non plus, mais. Non, parce que c'est le livre qui m'étonne. C'est de quel livre est une question. Parce que chez Aristote, pour aller chercher, c'est souvent question de l'objet. L'objet à fabriquer, plus célèbre exemple, c'est le livre. Le lit, c'est-à-dire ce qui n'existe pas dans la nature, hein, c'est la technique. Alors là, le panier, oui, ça me rappelle quelque chose. Et le livre.
Le livre, c'est un panier, hein, c'est une sorte de panier. C'est un lecteur.
Oui, mais non, mais Aristote.
Oui, non, mais
d'abord, si Aristote parle d'un livre, c'est forcément un rouleau.
C'est pas ça. Mais peu importe, je sais.
Oui.
Mais alors, tout sont des paniers.
Mais en tout cas, oui, alors, quand il y a quelque chose qui est indifférent, panier ou livre, ça c'est Aristote. Donc là, déjà, une fois de plus, la philosophie ne se porte pas très bien. Et plus loin, on va avoir devant la foule qui se pressait devant le mur, d'où la Joconde avait disparu.
Oui, c'est un fait réel. Quand on a volé la Joconde, il y a eu pendant des semaines plus de monde devant le mur vide que précédemment devant la Joconde. Et c'est à partir de ce moment-là que la Joconde est devenue le mythe qu'elle est aujourd'hui. C'est son vol qui l'a. À partir du moment où on a publié, on a édité des produits dérivés, des images multiples de toutes sortes, et avant la Joconde, on ne s'y intéressait pas trop. Et donc, Kafka est allé voir le mur vide.
Duchamp, et la chaux au cul, c'est pas antérieur.
Non, c'est justement si Duchamp fait et la chaux au cul, c'est parce que à ce moment-là, il y a d'innombrables reproductions couleurs en circulation grâce à ce vol.
Alors, d'accord. Donc le mur de la
voix. Imaginons Kafka devant ce mur où il y a juste le clou. Et c'est extraordinaire, c'est parfaitement kafkaïen.
Kafka qui est posé comme Kafka Agar. Alors, entendre. Kafka Agar, dans la foule qui se pressait devant le mur d'où la Joconde avait disparu, panier ou livre. Alors, panier revient ici avec une majuscule. Alors,
c'est juste parce qu'on change.
C'est juste parce qu'on change, oui, c'est ça. Parce que le panier ou livre. Entre parenthèses, un choix, point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un choix? Il n'y a pas de choix, en fait, puisque c'est quelque chose, comme ça a été dit au verre précédent, c'est quelque chose, c'est un choix,
Et panier ou livre, un choix avant, fermez la parenthèse, prose de nouveau avec majuscule, je veux dire, on commence une autre phrase, prose, et en effet, rejet, en lamelle, et c'est là, si c'est tout ce qui advient. Donc, si c'est tout ce qui advient, c'est, c'est-à-dire, s'il n'advient que cette, cette lamellisation, ce découpage en, en tranches, de l'objet général,
Christophe Berlin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien que vous lisiez le texte, la page 18. Après, je vous laisserai le choix de lire le dernier poème de la soirée, puis on s'arrêtera là, si vous voulez.
Oui. Et pourquoi celui-là?
Parce que j'aime beaucoup.
D'accord. C'est, il fait partie d'une série dont il est le seul présent dans ce livre, qui sont des textes écrits devant des photographies. Donc, j'ai écrit toute une série de textes sur les autoportraits photographiques de philosophes au XXe siècle, notamment Adorno et Krakauer. Et, mais là, c'est une photo de Jean Rau. Et c'est Jean Rau, c'est un photographe français qui photographie des femmes nues, notamment. Mais il a ceci de particulier qu'il les photographie très régulièrement tout au long de leur vie. Et donc, à peu près tous les 5-6 ans, il revient les voir. Et ça fait ceci depuis 30 ans. Extraordinaire. Et là, c'est une photo qui m'avait, pour des raisons que je ne saurais dire, pas par pudeur, mais par ignorance, touchée. Ça s'appelle « Elle pose ». Son épaule gauche remonte curieusement, car elle a le coude posé sur la télé, posé sur une fine tablette à roulettes façon années 60. Elle n'est pas, et qu'elle n'est pas grande, 1,55 m maxi. Cette épaule lui fait une déformation sexy, comme une bosse. Sa main gauche paraît n'être attachée à aucun bras. Elle pend les doigts allongés, leurs ongles sont soignés. Elle semble sortir de derrière son sein qui est assez joli, quoique de taille moyenne, et reposant un peu trop sur le buste. Elle est très nue, elle pose pour le photographe, mais n'est pas entièrement là maintenant. Sa bouche et son retrait centrent l'image sur son ventre.
Tu en as un autre ou comment est-ce que ça fait ça?
C'est intéressant parce que tu as fait deux lapsus en
lisant. Je ne l'ai pas lu, je n'ai jamais lu.
C'est pas la lettre au lieu de la table, bouche au lieu de
la bouche. C'est parce que je n'ai pas l'habitude de lire, c'est la première fois que je
lis. Non, mais merci. Les lapsus du poète sont.
Oui, sont poétiques. Allez, je lis le dernier, qui s'appelle Zibeline. Et comme ça, on en finira avec cette histoire. Jamais nul vrai plaisir à tirer ces lignes, sinon celui parfois de voir ou d'entendre la doublure ou l'écho qui susurre la désentente, l'en dessous qui relance, fait déboîter, bifurquer pour poursuivre droit ou, on ne sait, enchaînement sans lien, qu'ensuite un scrupule, une inquiétude, essaie d'élucider par l'intercalation de verres correctifs ces sonnets-sons, des chimères de papier, crépons, greffons, à relutineux, cousus, d'autant d'items que l'instantané distrait du plan séquence, des flux, je et un bal masqué.
Merci à tous les deux.